simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Dans le pays, la colère gronde. Depuis plusieurs jours, les Sri Lankais manifestent contre le président Gotabaya Rajapaksa. Pourquoi ? Depuis 2 ans, le pays fait face à la plus grave crise économique jamais connue depuis 1948, date de l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Partout dans le pays, depuis février, les files d'attente aux abords des stations essence ou de gaz parasitent les chaussées. Les habitants doivent compter jusqu'à 10 heures pour faire le plein, quand les stocks ne sont pas déjà épuisés.
Un réservoir de diesel qui coûtait entre 20 et 23 dollars coûte maintenant 51 dollars. Alors comment pouvons-nous vivre? Je dois d'abord pomper du diesel avant de pouvoir acheter l'essentiel pour ma maison. Beaucoup de gens ont du mal à se procurer un repas complet. Il faut faire la queue pour avoir de l'essence et du lait en poudre. Faire la queue pour tout.
En cause, le Covid-19 et la baisse de la fréquentation touristique, mais aussi la baisse de la TVA et la suppression mal avisée de plusieurs taxes par l'exécutif. Elles ont asséché les caisses de l'État. Il croule sous une dette de 51 milliards de dollars. Quant à l'inflation, elle bat chaque mois des records. Elle a atteint les 18,7% en mars. Le pouvoir d'achat des Sri Lankais s'est effondré. La gestion du président Gotabaya Rajapaksa, élu en novembre 2019, est aussi sévèrement mise en cause par la population. Il avait installé depuis le début de son mandat un véritable clan familial à la tête du pays.
L'info écho avec vous Christophe dans 7 ce matin. Bonjour Christophe.
Bonjour Pauline.
Si le Sri Lanka vit cette crise politique, c'est au départ parce qu'il s'agit d'une crise économique. Donc Christophe, vous allez nous donner les origines.
Oui, parce que probablement c'est la pire crise économique, même depuis l'indépendance du pays en 1948. Il y a un mois, le Sri Lanka s'est déclaré en défaut de paiement et depuis il n'a pas honoré un certain nombre d'échéances de dettes. Cette dette, elle est énorme, près de 90 milliards de dollars. Et c'est surtout sa dette vis-à-vis de l'extérieur qui est insoutenable. Celle-ci s'élève à 51 milliards de dollars. Au début des années 2010, au sortir de la guerre civile, le pays a d'abord joui d'une importante croissance et il était devenu une destination touristique très prisée. Et donc le gouvernement a commencé effectivement à dépenser presque sans compter, avec des projets de construction dont l'utilité n'était pas réellement prouvée, notamment dans le sud du pays, qui est le fief des frères Rajapaksa, un port, un aéroport international, un centre de conférence absolument énorme ont été construits, d'où des soupçons de corruption contre des membres du pouvoir en place. L'année dernière, le consortium international de journalistes a révélé que des proches du président détenaient des millions de dollars dans les paradis fiscaux. Et quand les problèmes sont arrivés, les problèmes économiques sont arrivés avec la crise du Covid-19 et plus récemment même avec la guerre en Ukraine, eh bien tout s'est effondré. L'exploitation de ce port dont je vous parlais a été confiée à la Chine pour une période de 99 ans en échange de l'effacement d'une partie de la dette.
La Chine, c'est là qu'on touche au cœur du problème car cette dette sri-lankaise a été souscrite en grande partie auprès de Pékin.
Pékin qui a prêté effectivement très généreusement mais à des taux important, plus de 4%. Les nouveaux prêts servant surtout à payer le service de la dette au lieu d'acheter des biens essentiels. Et cette faillite du Sri Lanka constitue un sérieux avertissement aussi pour un certain nombre de ses voisins. Je pense au Pakistan, dont la dette a augmenté de plus de 70% en 3 ans pour financer des autoroutes, des barrages, des ports construits là aussi par la Chine, et ce alors que l'économie pakistanaise ne décolle pas. Au contraire, c'est la même chose pour d'autres pays de la région, le Bangladesh, le Népal ou encore surtout les Maldives.
I think I can make a rhythm.
Devant le silence affligeant des médias institutionnels concernant les mouvements de lutte qui peuvent se passer à travers le monde, nous faisons cette émission concernant plus particulièrement ce qui se passe en ce moment au Sri Lanka. Le Sri Lanka s'enfonce dans une crise économique qui s'aggrave de jour en jour, la pire depuis l'indépendance du pays il y a 74 ans. Une situation en partie causée par la pandémie du Covid-19, la baisse du tourisme, des dépenses publiques inconsidérées pour des projets bénéficiant aux plus riches, la fin de l'imposition des hauts revenus, une dette extérieure abyssale de 23 milliards d'euros. Une grande partie de la population sri-lankaise ne peut plus vivre. Elle doit faire des queues interminables pour faire face aux pénuries de produits alimentaires, de carburants, de médicaments. La population sri-lankaise, depuis plusieurs mois, est en insurrection. Des dizaines de milliers de manifestants défient le gouvernement, incendiant les maisons des riches propriétaires, les traquant dans les rues. L'état d'urgence est décrété sur l'île, et de violents affrontements ont lieu, le peuple mettant feu les maisons du Premier ministre et de nombreux ministres et députés, désignant ainsi les responsables de leur colère. Les maisons du Premier ministre Mahinda, des députés et ministres du pouvoir Maipala Erat, Johnston Fernando, Nima Lanza, Sata Nishanta et bien d'autres sont en feu. Le Premier ministre a été obligé de démissionner, son fils est en fuite. Les manifestants sortent de partout, s'arment de bâtons, de barres de fer, bloquent les routes et traquent les voyous du pouvoir qui ont blessé avec la police des manifestants. Un député du pouvoir a même tiré sur des manifestants et en a blessé, et donc il a été retrouvé mort. C'était prévisible. Le Premier ministre Gotabaya Rajapaksa a présenté sa démission. Nous allons nous pencher plus précisément avec Jacques Chastain sur les mouvements, manifestations, grèves qui ont lieu en ce moment même au Sri Lanka. Parce qu'on a quelques images comme ça des fois sur les fils Facebook, etc. Mais visiblement, c'est très, très, très explosif au Sri Lanka. Donc, on va revenir pas à ces derniers jours, hein, parce que ces derniers jours, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au Sri Lanka, d'où vient l'origine de ces révoltes très, très massives, hein, mais aussi nous parler un petit peu du Sri Lanka. C'est quel régime c'est, depuis combien de temps le mouvement est en lutte, de faire un petit historique.
Bon, ben, si tu veux, le Sri Lanka, c'est une île au sud de l'Inde. C'est 22 millions d'habitants et c'est un pays indépendant depuis 1948, l'Inde, et un pays extrêmement agité politiquement, socialement depuis l'origine. Enfin, c'est une population très très combative et où il y a peut-être la particularité qu'il n'y a peut-être pas de sentiment national au Sri Lanka. Il ne s'est pas créé vraiment un sentiment national. La population étant divisée entre deux grands groupes, il y en a d'autres, hein, mais les principaux, c'est les Singhalais et les Tamouls. Bon, avec une guerre civile extrêmement importante des Tamouls qui a duré plus de près de 20 ans, avec 100 000 morts au moins, ouais. Qui a fini en 2009. Plus des situations, des mouvements insurrectionnels, il y en a au moins, depuis l'indépendance, au moins deux gros, qui ont fait aussi de nombreuses victimes, 25 000 morts pour l'une et puis l'autre 10 000. Donc il y a des partis politiques en veux-tu en voilà, et une extrême gauche assez présente, enfin une gauche assez présente, extrême gauche assez présente, c'est le seul pays du monde, je crois, où il y a eu un gouvernement trotskiste. Voilà, donc,
C'est ça, ça te fait plaisir. Hein.
Il n'a pas été bon du tout. Hein. Non, non, mais c'était pour dire que c'était un pays très, très politisé. Hein,
d'accord.
Bon. Et depuis, donc les dernières années, dernières décennies, donc, ont été marquées par la guerre civile interne entre le soulèvement des Tamouls, qui font un gros quart de la population, qui sont méprisés et maltraités, disons, par la majorité singhalaise, qui est bouddhiste, hein, la religion dominante, c'est le bouddhisme. Et donc, le bouddhisme officiel est quasi au pouvoir. C'était le gros souci au Sri Lanka depuis les années 80 jusqu'en 2009, donc cette guerre civile des tigres tamouls, tu as peut-être entendu.
Mais carrément, ça, voilà. Mais carrément. Voilà. Voilà. Surtout que nous, à Paris, on a une forte immigration sri-lankaise vers le nord de Paris. Les tigres tamouls, tout à fait.
Voilà, la guérilla des tamouls a été battue en 2009 par le régime actuel. La famille, disons, qui tient le gouvernement actuellement, les Rajapakse, et qui, à partir de la défaite des Tamouls, la situation du Sri Lanka a beaucoup changé. Auparavant, c'était un peu comme partout, il y avait la gauche et la droite, qui se battaient, l'une remplaçait l'autre, etc., etc. Et une extrême gauche, parfois guérilleriste, avec des maoïstes assez importants. Mais à partir de 2009 et la chute des Tamouls, il y a un tournant la défaite de la guérilla tamoule, il y a un tournant dans la politique du Sri Lanka qui a été à la fois un tournant vers la Chine et un tournant vers le libéralisme. Enfin, c'est symbolique de ce qui se passe à l'heure actuelle. L'armée indienne était intervenue plusieurs fois au Sri Lanka, et donc le grand danger pour les Sri Lankais, c'est l'Inde, quoi, le grand voisin. Contre l'Inde, ils se sont tournés vers la Chine, et ils ont en même temps complètement ouvert le pays au marché mondial. Donc avec l'aide de l'argent chinois, ils ont complètement restructuré toute l'économie, toutes les infrastructures, surtout au Sri Lanka, les routes, les ports, les aéroports, etc. Ça a donné pendant quelques années le sentiment au monde entier que le Sri Lanka, c'était le bon élève du libéralisme, que tout marchait bien, que il y avait des embauches, on construisait, on travaillait, etc. Et donc ça, sous la domination d'un gouvernement des Rajapakse, la famille qui dirige aujourd'hui, parce que c'est un peu des clans qui dirigent la famille, par exemple, Rajapakse aujourd'hui au gouvernement. Elle avait le président qui était Goyatapa, qui était le président, puis son frère qui est le premier ministre, et les tantes, les nièces, les cousins, ils ont tous des postes de ministre ou député. Enfin, c'est une mainmise sur le pouvoir familial extrêmement importante. Mais alors, pour en venir à 2009-2010, donc c'était déjà cette famille qui dominait le Sri Lanka. Et à partir de 2010, et donc cet investissement chinois, la gauche et la droite ont un peu quelque peu disparu, parce que cette famille, elle dirigeait le parti de gauche. Bon, c'est un peu bizarre quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et puis à partir de 2010, il s'est fait une espèce d'union nationale. Bon, ils ont appelé à l'union nationale. Donc entre la droite et la gauche ont fonctionné ensemble, et depuis ils fonctionnent ensemble à peu près depuis ce moment-là. Alors je bagarre en permanence. Les deux grands partis, gauche et droite, dirigent ensemble le gouvernement. Alors parfois il y en a qui se fâchent, qui partent, qui reviennent, etc. Mais avec en plus toujours les mêmes noms. Par exemple là aujourd'hui c'est le président, c'est Goyatapa, son frère Mahinda était premier ministre. Mais le coup d'avant c'était Mahinda qui était président et l'autre qui était ministre de la Défense, chef de l'armée, tu vois. Bon. Et le nouveau premier ministre qui vient de nommer là ces jours-ci là, il s'appelle Ranil, c'était du parti de droite, si on peut dire comme ça, était le premier ministre déjà du gouvernement de gauche de 2009, quoi. Tu vois,
c'est toujours les mêmes, quoi. C'est les mêmes, ça tourne.
Les mêmes noms et une espèce d'alliance nationale qui tient tout, quoi, qui, avec des bagarres internes, mais qui tient tout. Et donc 2009-2010, donc il y a eu cette espèce d'union nationale qui dure un peu toujours jusqu'à aujourd'hui avec des bagarres. Hein, il y en a qui s'en vont, il y en a qui s'assassinent. Hein, ça, c'est quand même des fois assez radical, mais enfin, ils marchent toujours ensemble, donc entraînant avec eux les syndicats. Les syndicats, ils mènent un certain nombre de bagarres sous la pression populaire, mais toujours à la fin, bah, ils disent, ah bah oui, mais il faut quand même sauver l'économie, oui, mais on peut pas aller plus loin que ça, on peut pas renverser le gouvernement. Voilà. Donc les syndicats sont puissants, mais en même temps, dirigés par les membres de ces partis, finissent toujours par se coucher. Mais il y a aussi des traditions dans le monde étudiant et universitaire radicales, parce qu'il y a eu, au moment des révolutions arabes en 2012, il y a eu une révolution arabe, si on peut dire, enfin, une espèce de printemps arabe au Sri Lanka, avec les étudiants et les enseignants, qui ont fait aussi fort que en Égypte ou en Tunisie. Mais c'était les étudiants et les enseignants. Et aujourd'hui, là, les étudiants, à nouveau, jouent un rôle très important.
D'accord.
Face à ce que tu veux, cette espèce de bloc où la gauche et la droite sont ensemble. Et les syndicats.
Moi, je trouve que dans les discussions qu'on peut avoir sur l'Inde ou sur, comme ça, tout ce qui se passe en Asie, mais on peut l'étendre à l'ensemble du monde, c'est qu'on y retrouve quand même un peu des schémas similaires sur l'ensemble de la planète, avec une espèce d'américanisation, on va dire, du pouvoir politique. Hein, avec l'effacement des différences gauche-droite, l'allégeance ou la cogestion avec les grands partis ou les syndicats au libéralisme, et puis bah, le peuple qui essaye dans tout ça de se faire entendre avec des difficultés énormes dues à la répression et au manque de structuration.
Voilà, oui, tout à fait. Non, mais c'est extrêmement symbolique de ce qui se passe dans le monde. Alors, pour finir, ce qui s'est passé en 2009-2010, le grand tournant, là, c'est qu'en même temps qu'ils faisaient cette union nationale, ils ont muselé toutes les autres oppositions. Hein, c'est-à-dire que muselé la presse, muselé les médias, mis en prison les opposants, y compris les torturants un petit peu, donné le plein pouvoir à l'armée dans beaucoup de choses. Par exemple, à l'université, c'est l'armée qui forme ce qu'ils appellent des leaders universitaires, enfin, des responsables de sections des universités. Ils sont formés par l'armée, dans l'armée. Et maintenant, l'armée a pris en main les écoles, c'est-à-dire que les professeurs devaient être formés au sein de l'armée, donc avec en même temps une montée de la corruption, des fraudes, des tricheries en tout genre, et des révoltes contre ce système qui paraît complètement bloqué. Il n'y a plus l'alternance gauche-droite qui pouvait y avoir avant. Donc c'est un tout, y compris les guérilleristes maoïstes qui ont fait la guérilla à deux reprises donc dans les années 90 pour la dernière fois, soutiennent ou participent souvent ces grandes alliances, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas de position, à part, je te dis, un peu l'opposition civile, les étudiants, et puis les grèves, quoi, les grévistes qui sont très, 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 très nombreux. C'était le bon élève hein, du libéralisme. Pour refaire toutes les infrastructures du pays, ils se sont énormément endettés auprès de la Chine. C'est la Chine qui possède la dette au Sri Lanka, voilà. Comme ça commençait l'économie commençait à avoir des difficultés à partir de 2020-2021, en octobre 2021, pour ajouter à la situation, le gouvernement Rajapaksa, là, il a quasiment supprimé les impôts aux riches, aux entreprises, aux banques.
Ça, c'est dingue, hein, parce qu'on retrouve quand même un peu les mêmes phénomènes hein, sur l'ensemble de la planète. Hein. C'est voilà. Toujours les pauvres qui payent.
Et donc, en même temps que ça, en octobre 21, donc 2021, il y a en même temps, ils supprimaient le contrôle des prix. Donc, il y a eu une inflation considérable qui a explosé. Donc, les bénéfices aussi des entreprises et des riches ont été historiques. Hein. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent, fait autant d'argent qu'à ce moment-là, mais avec une inflation considérable. Et puis, comme il y avait moins d'impôts, ils n'arrivaient pas à rembourser la dette. Donc, le service de la dette a augmenté de manière considérable. Et puis, bon, il y a un moment où tout ça, ça craque. Et, on peut pas dire à l'avance quand c'est que ça va craquer, quand est-ce que la limite de la dette est trop, trop importante. Mais là, ils ont franchi la limite, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à payer, acheter du gaz, de l'essence, l'électricité, etc. Donc, il y a, en plus de l'inflation qui est énorme, donc 30% là, au mois d'avril, mais c'est tous les mois, hein, c'est 10, 20, 30% là, au mois d'avril la dernière fois. Mais en plus, il y a d'énormes pénuries de médicaments, d'aliments, d'essence, de gaz, des coupures d'électricité donc considérables. Donc, il y a plein d'entreprises qui s'arrêtent, des artisans, des boutiques, des artisans, etc., qui ne peuvent pas fonctionner, des gens qui n'ont plus de revenus. Et donc, à partir de novembre 21, énormément de luttes. Il y en avait avant, hein, de 2018, 2019, 2020, ça n'a pas arrêté. Hein. C'est un pays où les gens se laissent pas faire, ils se battent énormément. Mais là, à partir de novembre 2021, ça a pété de manière importante. Et avec les paysans qui suivaient les Indiens, qui suivaient le mouvement paysan indien, qui jouaient un rôle important parce que eux, ils avaient commencé déjà depuis le mois d'août 2021 à se mettre en bagarre parce que pour faire des économies, le gouvernement, économie de devise, il avait décidé de plus acheter d'engrais. Donc il avait dit, bon ben, on devient une île écologique, où il avait dit aux paysans, vous vous débrouillez, mais plus d'engrais, il faut faire des choses naturelles, etc. Mais évidemment, ça voulait dire la mort du jour au lendemain, la mort des paysans. Donc il y a eu un grand mouvement de paysans qui a duré 4 mois. Et ce mouvement paysan, contrairement à toutes les luttes économiques qu'il y avait jusque-là, il a dit, il faut renverser le gouvernement. Voilà, nous, notre objectif, c'est de renverser le gouvernement, on est en train de crever, on va renverser le gouvernement. Et là-dessus, le phénomène d'inflation et de dette à partir d'octobre 21 a fait que le mouvement ouvrier a embrayé là derrière à partir avec d'énormes grèves. Il y a eu 4 grèves générales hein, depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui au Sri Lanka, mais jamais sans mot d'ordre politique. Tu vois, c'était bon pour la hausse des salaires, pour la baisse des prix, enfin bon, pour le contrôle des prix, etc. Mais il n'y avait jamais de mot d'ordre politique jusqu'au 31 mars, là. Où il y a un certain nombre de gens, des gilets jaunes du Sri Lanka, qui ont attaqué les résidences du Premier ministre, du Président de la République. Et,
avant d'arriver à ce phénomène tout à fait réjouissant, à ce qui s'est passé au mois de mai, là, parce que là, depuis le début mai particulièrement, donc c'est complètement ces jours-ci, quoi, là, il se passe des choses extrêmement intéressantes, puisqu'il y a eu une grève générale le 6 mai, mais ça, tu l'as dit, depuis un certain nombre de temps, il y a des grèves générales. Après, une grève générale illimitée à partir du 11 mai, hein, qui demande la chute du président. Les syndicats ont un peu reculé sur cette grève générale. Il y a eu les pleins pouvoirs donnés à la police, une très très forte répression. Puis bah, du coup, une colère accrue de la part des manifestants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces jours-ci, là?
Là, je te parlais de mars.
C'est depuis le mois de mars qu'ils s'en prennent aux maisons des bourgeois.
Et ils ont attaqué, ils ont occupé, ils ont essayé d'occuper la maison du président de la République.
Carrément.
Il faut dire que là-bas, on l'appelle Terminator, le président de la République. C'est l'homme fort, c'est un lieutenant-colonel. C'est lui qui a cassé la guérilla des Tamouls, hein, des tigres Tamouls.
D'accord.
Donc c'est le dur. Bon, et donc les gars, à pleine nuit, ils ont occupé sa maison, quoi. Donc c'était des grosses bagarres, et pas que la sienne, celle du Premier ministre et d'autres ministres. Ça a été dénoncé par tout le monde, les directions syndicales, les directions de tous les partis d'opposition, du gouvernement bien sûr, mais aussi d'opposition politique. C'est pas normal, c'est qui ces gens-là? On les connaît pas, c'est des anonymes, ça peut être n'importe qui. Bon, c'est pas bien. Bon, mais ça a enclenché un mouvement. Bien sûr, là, c'était l'état d'urgence, le couvre-feu, etc. Mais les gens sont assis dessus, ils ont continué à manifester. Et donc, ils ont décidé d'occuper la présidence de la République. Enfin, donc, ils n'ont pas pu tout occuper, mais ils ont occupé au moins le hall d'entrée. Donc, il est toujours occupé, à l'heure actuelle. Plus, ils ont bloqué la résidence du Premier ministre, plus le Parlement. Donc, ils se sont installés, ils ont installé des grands campements, un peu comme ceux qu'il y a eu en Inde, tu sais.
Bah oui, à Delhi, oui, tout à fait.
Voilà. Ça s'appelle le campement, par exemple, devant la présidence. Il leur donne des noms. Hein. Ça s'appelle Dégage Gotha. Gotha, c'est le
président.
Du président, quoi. Ça s'appelle Dégage Gotha. Devant le Parlement, c'est pas de compromis. Le campement, pas de compromis, parce qu'il faut pas de compromis. Là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui campent jour et nuit, malgré le couvre-feu, malgré l'état d'urgence. Depuis le 9 avril, c'est la fête, ils ont installé des hôpitaux, des écoles, des cinémas,
bon, pareil qu'à Delhi, ouais.
Voilà, pareil qu'à Delhi, et en plein quartier chic, hein, parce que la présidence et les ministres sont...
C'est comme par chez nous, hein, c'est toujours dans les quartiers très très riches.
Voilà, voilà. Et donc c'est une occupation permanente, donc il devient un foyer, si tu veux, d'agitation politique extrêmement important, qui déborde un peu les partis politiques traditionnels et les syndicats.
Thank you.
qu'on est toujours avec Jacques Chastain pour parler de ce qui se passe au Sri Lanka.
Sous la pression, cette pression populaire, les syndicats ont appelé à deux grèves générales, une le 28 avril, donc sous la pression parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et une autre le 6 mai, donc qui ont été des tsunamis. Hein, c'était, tout s'est arrêté vraiment. Ils appellent ça des harcales là-bas, c'est-à-dire qu'on fait plus que la grève générale, on bloque tout. C'est-à-dire y compris le fonctionnement de l'État, quoi, c'est-à-dire que du capital, c'est-à-dire la bourse est arrêtée, tous les organismes de la haute finance sont bloqués, et ceux qui ne veulent pas faire grève, mais ils sont bloqués quand même, donc tout est arrêté. Donc, c'était à 100%, grève à 100%. Avec la dernière, le 6 mai, sous la pression, parce que les gens, eux, ils sont pour renverser le gouvernement, ils disent on veut dégager le Gotha et son frère Mahinda, là, le premier ministre, pour les dégager, etc. Et sous cette pression-là, les directions syndicales qui se sont alliées ont appelé à une grève illimitée à partir du 11 mai. Ils n'ont pas tenu leur promesse.
Hein, visiblement, ils ont un peu reculé, là.
Oui, complètement, parce que le jour où ils ont appelé, c'est-à-dire je crois que c'était le 7 mai, le lendemain de la grève générale.
La grève générale, ouais.
Sur le lendemain, le 9 mai, alors il y a eu des rumeurs, le Premier ministre va démissionner, le Premier ministre a dit peut-être que oui, le Président a dit oui, il va démissionner sous la pression, mais pour dire j'en lâche un, mais pas tout, quoi. Je lâche le Premier ministre, mais pas le Président. Mais le 9 mai, le fameux Premier ministre, donc c'est-à-dire le gouvernement, l'État, la police, l'armée, a sorti des gens des prisons, il y en a fait des miliciens, plus les miliciens de son propre parti, et a attaqué les campements devant la présidence, devant le siège du Premier ministre, devant le Parlement, en faisant de très nombreux blessés, plusieurs centaines de blessés et plusieurs morts, de manière extrêmement violente, en matraquant avec la complicité de la police qui regardait, eux-mêmes qui participait pour certains.
Tu veux dire, ils ont sorti des détenus des prisons pour en faire des espèces de mercenaires. Qui étaient ces gens?
Non, c'est les droits communs. Quoi.
Des droits communs. Ouais. Ça, c'est vraiment assez... D'accord. Et en échange de leur liberté et un peu d'argent, peut-être, donc ils ont...
Probablement. On ne sait pas ce qu'ils leur ont promis, mais il y a des vidéos où on voit un immense meeting de tous ces gens-là, où le Premier ministre est là et dit, il faut aller dégager... tous ces terroristes, ces musulmans, parce qu'ils font de la démagogie aussi anti-musulmans, etc. Parce que pour eux, comme en Inde, hein, c'est, par exemple, pour dire le niveau, hein, c'est le Covid, c'est les musulmans qui le...
Oui, qui l'ont transmis, bien sûr.
Voilà, évidemment. Donc, hein, c'est...
Mais c'est ce que tu racontais aussi pour l'Inde, c'est-à-dire que les gouvernements... jouent forcément sur la division du prolétariat. Ils se servent souvent de la religion pour opposer les uns aux autres, pour affaiblir... le camp des travailleurs. Et du coup, c'est pareil pour le Sri Lanka.
C'est exactement la même chose. Oui.
Okay.
Donc le 9 mai, il y a ces voyous qui déferlent sur les campements, donc qui le détruisent en partie, en tout cas celui devant le Premier ministre, qui le détruisent et qui tuent et blessent énormément de gens. Et c'est une espèce de coup d'État, parce qu'en même temps, le gouvernement avait décrété le couvre-feu, donc et avait prévu de renvoyer de renvoyer les gens chez eux. Bon, il l'avait pas fait, hein, mais donc ce qui fait que le 9 mai dans l'après-midi, ça c'était le matin, 9 mai dans l'après-midi, il y a eu une riposte populaire considérable, et donc les gens sont descendus, ont arrêté le travail, sont descendus dans les rues, et par centaines de milliers, mais dans tout le pays, pas simplement à Colombo, la capitale, ils sont descendus dans la rue, et à Colombo, ils ont été attaqués, les miliciens. Ils ont brisé les miliciens et les flics qui les protégeaient. Ils ont y compris matraqué un certain nombre de dirigeants de la police. Tabassé, il y a des vidéos, c'est assez marrant. On voit les chefs de la police qui se sauvent avec des tas de gens qui leur courent après avec des bâtons. Et donc, ils ont mis sous le contrôle de milices populaires le pays. Hein, donc, toutes les routes étaient occupées par des checkpoints de la population qui voulaient choper les miliciens qui se sauvaient, ou les hommes du Premier ministre, ou le Premier ministre, parce qu'ils savaient que c'était lui et quelques ministres qui avaient lancé cette attaque. Ils ont pris le pays en main. Et dans la nuit, ils ont été un peu plus loin puisqu'ils ont brûlé une centaine de maisons des ministres, du Premier ministre, de députés, de maires, tous les gens du pouvoir, plus leur voiture, plus leur bureau.
Ouais, c'est ces images assez étonnantes qu'on a pu voir circuler, où une fois de plus, hein, d'un côté, des gens hyper pauvres qui ont à peine de quoi bouffer, et de l'autre, des villas somptueuses avec dans des garages des dizaines de voitures extrêmement coûteuses. Et tout ça prend feu, en fait. Et c'est voilà, ça qui est complètement dingue de voir qu'en quelques minutes, toutes ces richesses partent en fumée. Non, c'est vraiment assez réjouissant.
Toutes ces richesses volées, hein, parce que...
Bah, bien sûr, volées sur le dos des pauvres, non, mais voilà. On est tout à fait d'accord.
Il y avait une pancarte où il disait « on n'est pas pauvre, on est volé ». Et donc, oui, ils ont brûlé aussi un certain nombre d'hôtels où ces gens-là se cachaient. Et donc, ils ont passé leur journée aussi à chercher le Premier ministre. Donc, qui, lui, s'est réfugié dans une base militaire. Il faut imaginer, le Sri Lanka, c'est quand même une espèce de dictature militaire. Quoi, hein. Là, ils ont réinstauré le couvre-feu et l'état d'urgence. Mais l'armée est présente partout. Hein. Quasi tous les ministères sont dirigés par des généraux. Quoi. Même pour se marier, il faut passer sous le contrôle. Marier avec un étranger, il faut passer sous le contrôle de l'armée. Il faut que l'armée donne son... Donc, c'est vraiment un régime très, très dur. Et tout ça se passait quand même sous la passivité des militaires qui n'osaient pas intervenir, quoi, qui étaient là et qui... se disait on va être emporté par le flot. Le lendemain, donc le 10, ça a continué le matin, et puis les gens sont rentrés chez eux pour mesurer un peu certainement ce qu'ils avaient fait, pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe. Et là, ça a été le déferlement, tu veux, de la presse qui a eu une peur pour les bourgeois, évidemment, qui a dit bon, c'est les terroristes sont revenus, c'est la barbarie, il faut arrêter ça, il faut le pouvoir à l'armée, etc. Donc il y a eu une énorme campagne pour dire il faut écraser ce danger terroriste populaire donc de la presse plus de tous les partis et des syndicats qui ont renoncé à leur appel à la grève générale en disant non, on ne veut pas contribuer au chaos, de toute façon il faut sauver l'économie nationale, on annule notre mot d'ordre de grève générale. Voilà. Merde, mais l'histoire n'est pas finie.
Mais non, jamais, elle n'est jamais finie.
Donc, il y a eu quelques jours de calme. La presse, les partis bourgeois, les bourgeois ont appelé l'armée à prendre la rue. Donc, elle l'a fait un peu, mais visiblement, pas trop sûre d'elle, parce que les manifestations ont continué de plus belle. Donc, contre la hausse des prix, contre les coupures de gaz, le manque de gaz, les coupures d'électricité. Et puis, bien qu'il y ait le couvre-feu et l'interdiction d'occuper la rue, le Parlement, la présidence et le siège du Premier ministre sont toujours occupés. Enfin, les entrées sont toujours bloquées et occupées. Donc l'armée n'ose pas. Il leur a mis une petite note, il leur a donné un papier en disant « vous n'avez pas le droit ». Mais eux, ils sont restés. Mais ils n'ont pas osé aller plus loin que ça. Ils se disent « on n'est peut-être pas loin que l'explosion qui a eu le 9 mai et le 10 mai au matin ne recommence si on fait trop de conneries ». Donc le Premier ministre a eu la trouille, donc il a démissionné. Il est caché dans une caserne, mais qui est une caserne qui est encerclée par la population. Et l'armée ne dégage pas la population qui est autour de la caserne. Donc, ils ont nommé un nouveau Premier ministre, alors, qui est de l'opposition, mais de l'opposition, si on peut dire, qui était déjà Premier ministre des mêmes dans les gouvernements d'avant.
Oui, c'est le même en couleur, quoi. C'est comme en Tunisie, en Algérie, partout, quoi.
Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce Premier ministre, la première chose qu'il a dit, c'est non, il y a le couvre-feu pour tout le monde, sauf pour ceux qui occupent la présidence, le Parlement, etc., etc., et devant tous les sièges administratifs du gouvernement dans toutes les villes de province. Donc, il y a le couvre-feu pour tout le monde, sauf pour les manifestants et ceux qui se battent. Quoi. Donc, c'est un couvre-feu bidon. Donc, on voit des militaires qui circulent, mais qui font moins de contrôle que les ouvriers qui, eux, font toujours des checkpoints pour essayer de choper tout ce qu'ils peuvent trouver comme miliciens, comme ministres ou députés qui voudraient arrêter. Et là-dessus, comme quand même les syndicats et les partis d'opposition ont dit « bon, ben ça va trop loin, là, il faut arrêter », bon, ben c'est les étudiants qui ont donc cette tradition de lutte, c'est pour ça que j'en parlais, qui ont fait une coordination interfaculté, y compris le relais, et qui, eux, appellent à remarcher sur la capitale, un appel national à marcher sur la capitale le 19 mai pour renverser le président. Voilà, et donc avec un programme revendicatif qui est révolutionnaire. Les étudiants, avec la participation d'enseignants, d'artistes et de syndicalistes. Parce qu'il y a des syndicalistes aussi qui ne sont pas d'accord avec ce que font les directions syndicales.
Leur centrale, oui.
Et qui, eux, appellent à renverser le pouvoir et donc à soutenir cette initiative des étudiants. Voilà, donc, c'en est là. Il y a toujours l'occupation des bâtiments du pouvoir ou le désabord des bâtiments du pouvoir, des manifestations tous les jours, bien qu'il y ait l'état d'urgence, et puis cet appel à nouveau à renverser le gouvernement.
Emily Ebola.
Il s'en passe des choses dans cette région du monde. Malheureusement, on n'en entend pas assez parler parce qu'on se rend compte à quel point il y a des similitudes. Hein. Évidemment, c'est toujours prendre l'argent aux pauvres, fermer les services publics, le libéralisme à fond la caisse. C'est sur l'ensemble de la planète et que dans cette région-là, ça réagit pas mal en tous les cas pour le moment. Alors, je voulais juste, pour finir, qu'on fasse un tout petit point quand même sur l'Inde, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone et on en était resté, me semble-t-il, à une situation relativement explosive avec le pouvoir paysan qui avait gagné, mais, me semble-t-il, ce qu'ils avaient gagné n'a pas été mis en application. Donc, où ça en est là, en ce moment ?
Donc les paysans, ils ont gagné en novembre 2021 une victoire extraordinaire, donc après un an de lutte contre le gouvernement Modi très très à droite, enfin ultra droite, hein, dont l'idéologue se réclame de Hitler et de Mussolini, pour dire le niveau droit. Et donc ce gouvernement Modi voulait détruire l'agriculture indienne, qui est la particularité, c'est le seul pays du monde, enfin de cette importance où il y a ça, où l'économie de l'agriculture est très soutenue par l'État, très protégée par l'État, très soutenue par l'État, avec des prix minimums d'achat garantis par l'État qui ne dépendent pas du marché. Donc, ce qui permet à certains de ne pas trop crever de faim, même si c'est la misère pour beaucoup de paysans indiens, plus la garantie que l'État va acheter le blé, là on en parle aujourd'hui, et le distribuer dans tout le pays, plus la garantie que dans les périodes où il n'y a pas de travaux agricoles, les paysans sont embauchés à des travaux à la ville, des travaux d'irrigation, de construction, etc., etc., pour leur garantir un minimum. Voilà, donc c'est ça que le gouvernement Modi voulait détruire, et contre quoi les paysans se sont levés, et qu'ils ont réussi à faire reculer le gouvernement. Mais en même temps, en novembre 2021, ils avaient obtenu du gouvernement un truc incroyable qui s'appelle le MSP, c'est-à-dire une espèce de SMIG paysan, quoi, un salaire minimum paysan. Bon, c'est pas vraiment un salaire, mais enfin, ça revenait à ça. Donc, en sachant que les paysans sont 600 millions en Inde, donc c'était un truc considérable et qu'il n'y a pas de salaire minimum pour l'immense majorité des gens qui sont des journaliers, qu'il n'y a pas de protection chômage, pas de protection maladie, pas de protection rien du tout. Donc, ça aurait été une révolution considérable. Donc, le gouvernement l'avait promis, avait dit qu'il cédait là-dessus. Mais il ne l'a pas tenu. Bon, il n'a pas tenu cette deuxième promesse. Pour la première, oui, il a tenu, donc il a renoncé à ses lois anti-paysannes. Mais la deuxième, il n'a pas tenu. Or, le SKM, c'est-à-dire le Front Uni Paysan qui dirigeait la coordination paysanne, qui dirigeait le mouvement paysan, en novembre 21, quand ils ont gagné, il a dissous les occupations des autoroutes autour de Delhi, les grands campements où il y avait quand même entre 60 000 et 300 000 personnes qui campaient là en permanence et qui étaient des foyers de la révolution, hein, qui regroupaient non seulement des paysans, mais aussi des syndicalistes, des ouvriers, des jeunes, des femmes, des étudiants, etc. Et donc en dissolvant ces foyers, enfin ces villes révolutionnaires, il a aussi dissous la base de son pouvoir, si on peut dire, de sa radicalité, et en même temps, du coup, il s'est divisé en deux et une partie a voulu rentrer dans les élections dont tu parlais, au Punjab et à l'Uttar Pradesh. Eux, ils voulaient se présenter au Punjab, qui est le foyer insurrectionnel des paysans avec un autre État qui s'appelle l'Haryana, mais enfin, c'est surtout au Punjab. Donc, une partie du SKM, des directions paysannes, ont dit « Nous, on va se présenter aux élections qui avaient lieu en février-mars 2022. Mm-hmm. » Or, ça n'a pas du tout plu aux paysans parce que pour eux, élections, c'est corruption. Tout le mouvement paysan s'est construit à la base, dans la rue, dans la lutte, dans la grève, dans les manifestations, et pas du tout dans les élections. Donc ça leur a paru comme une trahison, et donc ça en a découragé quand même beaucoup. Ce qui fait que le SKM ne s'est pas remis de ce double phénomène, l'abandon des villes révolutionnaires, et puis qu'une partie d'entre eux se présente aux élections. Mais il y a eu telle opposition des paysans à cette candidature aux élections au Punjab qu'ils ont fini par renoncer, ils ne sont pas présents. Mais comme le mouvement s'est quand même arrêté, ou plus ou moins a été suspendu, parce que, bon, j'y reviendrai, mais il y a toujours beaucoup de luttes paysannes, mais suspendu, en tout cas au niveau de la coordination des paysans en novembre 2021, ils avaient décidé de faire tomber le gouvernement de l'État de l'Uttar Pradesh, qui est la vitrine idéologique du pouvoir, ou est l'idéologue du pouvoir, enfin, ou le président, le premier ministre de cet État est l'idéologue du BJP, du parti du pouvoir, et donc qui se réclame de Hitler et Mussolini. Donc il voulait faire tomber ce gouvernement aux élections du février-mars. Mais comme le mouvement s'est arrêté en novembre, ce qu'ils avaient prévu comme mobilisation s'est quand même beaucoup estompé. Aux élections de février et de mars, le BJP a beaucoup reculé en Uttar Pradesh, mais n'a pas perdu l'État. Donc il a quasiment un tiers de ses députés. Mais en même temps, il était ultra-majoritaire, donc il a quand même gardé l'État. Et par contre, au Pendjab, il a disparu. Quoi. Enfin, il n'était pas fort, mais il a complètement disparu. Je crois le BJP fait 1%. Et donc, c'est l'AAP, le Parti de l'homme ordinaire, qui est une espèce de Podemos indien, qui a pris le gouvernement au Pendjab, ce qui est quand même aussi une claque au pouvoir, enfin, un défi considérable. Mais ceci dit, le BJP a sauvé les meubles. Parce que s'il perdait l'Uttar Pradesh, qui est le plus grand État indien, il y a 220 millions d'habitants. S'il perdait l'Uttar Pradesh, il était fini, quoi. Donc là, il a réussi à garder l'Uttar Pradesh. Depuis ça, il a... Bon, et il y a eu une grève générale aussi dans la foulée. Bon, j'ai oublié fin mars, mais dans la foulée du mouvement paysan, avant que le mouvement paysan ne gagne, ils avaient prévu une grève générale avec les syndicats ouvriers fin mars. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le gouvernement... BJP avait cédé au mois de novembre aux paysans. Donc la grève générale a eu lieu fin mars, mais pas si forte quand même que si ça avait été en pleine mobilisation paysanne. Il y avait quand même près de 300 millions de grévistes, hein, c'est pas rien. Mais sur deux jours, ce qui est une première en Inde, bon, ce qui n'est pas rien, ce qui veut dire que l'agitation sociale continue, mais vous pouvez penser que cette grève générale allait déclencher quelque chose.
Ben oui, on aurait pu penser que vu l'importance, les formes, la radicalité de ce mouvement paysan aurait entraîné un peu plus que en fait ce qu'ils ont gagné. Bon, au moins ils ont fait reculer le gouvernement, mais enfin c'est peu finalement par rapport à ce qu'on a l'impression qu'ils auraient pu gagner vu la force, l'intelligence, l'organisation qu'ils avaient réussi à mettre en place. Donc, est-ce que le fait que le gouvernement ait cédé et puis après soit revenu sur sa parole a favorisé la démobilisation des places déjà ou des autoroutes?
Les gens ont quitté l'occupation des alentours de Delhi le jour même, enfin quasi, ou deux jours après la victoire.
Mais ouais, c'est ça. Historiquement, et là, cet exemple nous le montre encore, on ne peut pas faire confiance au pouvoir.
Je ne pense pas que ce soit une question de confiance dans le pouvoir. Hein. Je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord, je pense que je t'ai dit tout à l'heure, le fait que le FKM, enfin, la direction de la coordination... Là,
oui, c'était divisé en deux, c'est-à-dire une partie plus réformiste, électoraliste.
Voilà. Et ils ont dit, de toute façon, si le gouvernement ne tient pas ses promesses, on donne rendez-vous en janvier pour reprendre la mobilisation. Mais c'était malheureux, parce que, évidemment, si on arrête la mobilisation au moment sur la suite, bon. Et puis l'autre chose, c'est certainement, ça faisait un an que les paysans, quand même, ils occupaient, si tu veux, les alentours de Delhi, c'est épuisant, quoi, c'est fatigant. Et vu la vitesse à laquelle ils ont quitté Delhi, c'est qu'ils étaient heureux de rentrer chez eux, heureux de pouvoir dire on a au moins gagné ça. Bon, tout n'est pas gagné. Je ne pense pas qu'ils se faisaient des illusions sur le SMIC paysan, là, parce que c'était trop. Mais ils étaient heureux de au moins d'avoir fait reculer le pouvoir, d'avoir déjà gagné ça, et puis ils avaient envie de rentrer. Je pense que ce n'est pas que le fait que le SKM ait failli qui a fait ça. Je pense qu'il y avait une usure, une fatigue quand même de la base.
Est-ce qu'ils ont gagné le blocage des prix de l'électricité? Il y avait un prix minimum pour les productions alimentaires.
Oui, mais ça, c'était un minimum garanti pour les paysans. C'est-à-dire qu'ils avaient obtenu le fait que le pouvoir leur achetait tous leurs produits à un prix discuté entre syndicats et pouvoir.
Tu vois, et ça, ils l'ont gagné, ça.
Ça, ils l'ont obtenu, mais c'est ça qui n'a pas tenu le gouvernement.
Bah ouais, mais bon, c'est quand même ce qui leur garantissait une vie digne.
Voilà.
C'était quand même ce qui était le plus important, quand même.
Oui, ça c'est sûr, mais c'était énorme, hein, c'était un truc énorme. Alors, ça s'est maintenu dans les endroits où ça existait encore, par exemple au Punjab, à Haryana, par endroits, il y avait encore ce système-là qui date de l'époque de Gandhi, mais dans l'immense majorité de l'Inde, il n'y avait plus.
C'est ça, parce qu'il y avait la promesse que ça allait s'étendre à l'ensemble des paysans.
Voilà.
Ce qui n'a pas été tenu.
Il n'a pas été tenu.
Mais donc, on a l'impression quand même que ce mouvement, finalement, excuse-moi Jacques, mais il n'a pas gagné grand-chose.
Si, beaucoup quand même.
Mais je sais pas, dis-moi.
Il a gagné au moins qu'il n'y ait pas de recul. Alors, il a gagné que la situation ne recule pas.
Ouais, bon, mais bon, un an de mouvement, des centaines de morts peut-être.
Oui, 700.
700 morts.
C'est sûr. Bon, ils ont empêché le recul, ils n'ont pas gagné quelque chose en plus, mais ils ont gagné aussi moralement et politiquement, parce que la suite, tu veux, c'est pas fini, hein, parce que évidemment le gouvernement, quand il a vu que, la mobilisation nationale s'arrêtait, il a repris ses attaques contre les paysans. Alors, il le fait localement, quoi. Il le fait pas au niveau d'un seul coup au niveau national. Il le fait dans un état, dans l'autre, etc., etc.
Bah, oui.
Mais ce qui fait qu'il ressuscite, parce que quand même, les gens qui se sont battus pendant un an, tu les manipules pas comme ça. Donc, un peu partout, il y a des bagarres de paysans. Alors, la seule chose, c'est qu'elles sont locales, quoi. C'est des bagarres importantes, mais locales. Parce que, à la fois, le gouvernement, il attaque que localement. Et en même temps, le SKM a perdu quand même de l'autorité et du poids pour mobiliser au niveau national. Ouais. C'est peut-être le gouvernement qui va faire la mobilisation nationale, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au début de la mobilisation paysanne. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la mobilisation paysanne avait commencé par une mobilisation de femmes. C'était le mouvement de Chainbag, où oui. Le gouvernement, qui ne s'est dirigé qu'en s'attaquant aux religions musulmanes, aux femmes, aux dalits, aux intouchables, etc. Bon, ben, il continue, puisqu'il sait faire que ça. Donc là, il s'est attaqué à nouveau aux musulmans. Donc il s'est mis à raser des maisons de musulmans au bulldozer, sous différents prétextes, même sans prétexte. Donc ce qui a provoqué... Là, il y a quelques jours, dans une ville qui s'appelle Carcone, un soulèvement des femmes musulmanes, par milliers et milliers sont descendues dans la rue. Et ça ressemble à ce qui s'était passé en 2019, quand le mouvement justement des femmes avait commencé. Femmes musulmanes, déjà, sur les mêmes choses, avaient commencé comme ça. Ça va repéter, hein, parce qu'avec l'inflation...
Ah ouais, mais c'est clair, ça va repéter, mais en même temps... Puis en plus, comme tu es quelqu'un d'assez enthousiaste, hein, il y avait quelque chose de très enthousiasmant par rapport à ce mouvement-là. Et le fait qu'ils n'aient pas gagné grand-chose et le fait que, en fait, une espèce de reproduction permanente...
Ça fout les boules, mais c'est difficile de renverser un pouvoir. Donc,
ouais, c'est clair.
C'est pas vraiment une reproduction permanente, c'est plutôt une spirale. Là. Par exemple, là, aujourd'hui, avant-hier, il y avait un rassemblement des mouvements de jeunesse en Inde, et donc, eux, ils s'appuyaient sur ce qui se passait au Sri Lanka en disant « Voilà ce qu'on va faire en Inde, donc renverser le pouvoir. » Donc, ils donnaient cet objectif-là, et c'était à Calcutta, c'était des foules de jeunes, etc. Le mouvement indien, il s'est étendu au Pakistan, puis au Sri Lanka, et maintenant, il revient un peu plus conscient en Inde, tu vois. Donc, c'est des pas en avant. Eh bien, qu'il y a aussi le Pakistan, là, parce que c'est la même chose au Pakistan. Donc, le gouvernement est tombé, le 9 avril, sous la poussée populaire. Donc, c'est toute l'Asie du Sud qui est complètement ébranlé, sans parler de les Birmanie, au Népal, c'est le chaos le plus total, aux Maldives, etc. Et peut-être demain en Afghanistan.
Pour l'instant, là, il serre plutôt la vis, et une fois de plus vis-à-vis des femmes.
Mais ça gronde, en dessous, ça gronde énormément. Okay. Et il y a d'énormes mouvements. Les talibans ont été battus militairement, politiquement, à la frontière du Pakistan par les Pashtuns. Là, okay. Donc ils ont été chassés, donc ça remue fort, hein, ça remue très fort.
Voilà. Voilà.
Donc, on voulait juste faire un petit détour par le Pakistan et l'Afghanistan. D'octobre 2020 à mars 2021, le pouvoir militaro-islamique pakistanais a été fortement contesté. Durant 6 mois, dans le pays entier, la contestation sociale a occupé l'actualité quotidienne du Pakistan, luttant contre la vague de privatisation, les licenciements, les salaires baissés ou non payés, contre la misère qui frappe ouvriers et paysans ou sans emploi, contre également les violences policières et ethniques, contre la dictature du pouvoir islamique.
L'opposition avait promis que si le gouvernement militaro-islamique ne démissionnait pas de lui-même, le 31 janvier 2021, elle appellerait à une longue marche populaire partant de toutes les régions du pays pour converger à Islamabad sur le palais présidentiel de la coalition militaro-islamiste au pouvoir pour le renverser. Donc début mars 2021, sous l'exemple indien, une marche paysanne démarrait au Pakistan, se donnant aussi l'objectif de marcher sur la capitale fin mars. En février et mars se tenaient au Pakistan des élections législatives. Et à quelques semaines des élections, dans un premier temps, l'opposition unifiée déclarait qu'elle ne participerait pas à ces élections, qu'elle savait de toute façon truquer et organiserait une campagne de meetings régionaux destinée à organiser la longue marche sur la capitale. Mais en s'approchant des dates, l'opposition a déclaré alors qu'elle ne pourrait pas mener la politique de la chaise vide et qu'elle ferait donc les deux, participer aux élections et préparer la longue marche. Et puis après, elle a décidé qu'elle ne pourrait pas faire les deux en même temps et donc qu'elle participerait aux élections. Malgré le fait que la vraie opposition dans la rue, celle qui est dans la rue, reprenait néanmoins les manifestations de cheminots, d'enseignants, de personnels de santé, de paysans, de fonctionnaires ou d'opposition aux violences policières et ethniques, tentaient de reprendre à leur compte le projet de la longue marche sur Islamabad pour un pays laïque, libéré des oppressions ethniques, sexuelles et de l'exploitation capitaliste. Malheureusement, cette tentative a échoué, tandis que le pouvoir militaro-islamiste, sauvé in extremis par la faillite de l'opposition, reprenait du poil de la bête et profitait de la faillite de l'opposition pour accélérer ses privatisations et autres contre-réformes et son emprise policière sur le pays.
On va parler Pakistan, ouais. Afghanistan. Forcément, s'il se passe des choses au Pakistan, ça rejaillit forcément sur l'Afghanistan.
Forcément, forcément. Mais je regarde hein, là, ce qui se passe justement à la frontière afghane chez les Pashtuns. Là, je parlais du nouveau gouvernement au Pakistan, mobilisation populaire qui a renversé le gouvernement qui était militaro-islamiste. Donc il y a eu des espoirs du côté des Pashtuns pakistanais, tu veux, et donc afghans, parce qu'ils sont des deux côtés de la frontière, que le Pakistan laisserait tomber le gouvernement des talibans. Et si ça avait été le cas, le gouvernement des talibans n'aurait pas duré longtemps. Dans ce nouveau gouvernement pakistanais, ils se sont alliés avec un parti musulman qui est moins radical, tu veux, moins à droite que celui qu'il y avait avant, mais qui veut pas toucher à l'Afghanistan, etc. Donc pour le moment, c'est un peu entre deux, c'est pas trop.
Le renforcement sur le terrain social, enfin le terrain des femmes aussi, qui se durcit en Afghanistan, c'est peut-être en lien aussi.
Je ne sais pas si tu vois un peu la frontière afghane-pakistanaise, c'est des deux côtés. L'essentiel des habitants d'Afghanistan, c'est les Pashtuns. Et une grande partie de l'ouest du Pakistan, c'est aussi des Pashtuns. Mm. C'est des tribus, mais c'est des tribus qui se réclament du marxisme et qui sont très, très combatives et qui se battent à la fois contre les talibans et contre le gouvernement pakistanais. C'est des laïcs. Et donc, ils sont pour renverser le gouvernement des talibans et qui mènent la guerre à la frontière parce qu'il y a des incursions, la frontière est floue, des incursions de part et d'autre. Ils ont réussi à chasser les talibans d'une partie du Pakistan qu'ils avaient occupée par une guérilla. Et là, ils font des immenses manifestations, etc., avec des Afghans dans leur rang pour libérer l'Afghanistan de la domination des talibans, pour la réunification aussi de toutes les Pashtuns du Pakistan, d'Afghanistan, d'Iran, etc. Pashtunistan, laïque.
Bon, suite au mouvement des paysans indiens, on va en parler après, hein. La résistance pakistanaise avait pris quand même un petit peu, ça avait boosté cette résistance.
Ah oui.
Et il y avait eu des marches sur la capitale fin février, puis une marche le 23 mars aussi. Donc
elles ont fait tomber le gouvernement.
Hein. Ouais, carrément.
Il est tombé le 9 avril. Mais la difficulté, si tu veux, c'est que les marches ont été récupérées par l'opposition bourgeoise, si on peut dire, et donc qui a réussi à se mettre à la tête de ces trucs-là, et donc qui a pris la place de l'ancien gouvernement, mais qui s'est remis à la tête. Bon, c'est des pourris, hein, c'est les mêmes que les autres, quoi. En laïcs, bon, au lieu d'être des religieux, c'est des laïcs, mais c'est les mêmes. Mais par contre, la mobilisation continue parce que c'est les problèmes d'inflation, de chômage, etc., ça continue. Donc il y a des fortes mobilisations populaires qui continuent, mais sous direction des grands partis bourgeois, pour le moment. C'est assez original, ouais. C'est assez bizarre. Ouais. Mais il y a des foules dans les rues.
Ça, là, par contre, il n'y avait pas d'organisation paysanne ou ouvrière au Pakistan capable de prendre la direction du mouvement.
Voilà, ce qui a déclenché le mouvement, c'est les paysans, mais ils ont été débordés, tu veux, par les grands partis bourgeois qui ont réussi
à prendre la direction. Ouais.
Et oui, il y a aussi des organisations ouvrières qui ont tenté, mais qui ont été débordées. Les autres, ils ont des moyens considérables, et puis je suppose la politisation des masses là-bas est difficile, donc ils ont réussi à doubler, tu veux, les organisations paysannes et ouvrières.
Bon, bah, c'est pas réjouissant ça, hein, de voir toujours et souvent et trop souvent les révolutions prolétariennes, on va dire, paysannes, ouvrières, récupérées par la bourgeoisie. Bon, c'est un schéma relativement classique, toujours un petit peu désespérant.
Bah, c'est pas fini, hein, parce que là, ils viennent de faire des meetings là le 6 et 7 mai, mais c'est des maires de. Une population de gens qui sont là à cause de l'inflation, hein, mais ils ne sont pas là pour à cause de la hausse des prix, à cause des difficultés du quotidien. Et donc les deux grands partis, celui qui a été viré et celui qui a pris la place, hein, les deux grandes alliances, ils mobilisent ces gens-là l'un contre l'autre, ce qui fait que ça paralyse complètement l'État, hein, qui devient très faible, parce qu'il y a des foules de gens, et par démagogie, ils essaient de mobiliser les gens, mais du coup, ils subissent la pression des gens qui, eux, se battent pour leur mieux-être économique et démocratique. Donc, ça donne une situation qui est explosive. Ça va répéter. Hein. Là, il est fin mai, il y a une nouvelle marche sur Islamabad, la capitale, qui est organisée, qui est prévue. Donc, ça va sûrement faire chaud. Quoi. Plus les Pachtous à l'ouest, là, qui... Et les Baloutches au sud qui vont sûrement se remobiliser. C'est très, très, très chaud, Pakistan.
Ok, bon, en tous les cas, c'est super intéressant d'avoir un peu plus d'informations sur cette partie du monde, hein, parce que là, c'est calme plat, silence total. Donc, merci à toi, Jacques, de nous donner un petit peu plus d'informations comme ça régulièrement.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.